Prions. Seigneur, comme je viens de le dire à mes frères, nous avons tous besoin de toi, besoin que lorsque nous ouvrons ta parole, nous ne puissions pas lire ce que nous avons envie, comprendre ce que nous pouvons comprendre, mais être attentif à ce que toi tu veux nous dire et saisir ta grâce, saisir ta parole, ta vérité, et que cette vérité impacte nos vies, influence nos vies, imprime nos cœurs, que tout en nous devienne l'émanation, l'empreinte de ta présence et de ta gloire dans nos vies. Seigneur, accompagne-nous dans cette modeste méditation de ce matin et accorde-nous ensemble de découvrir des choses qui vont nous faire grandir encore en toi. Nous avons besoin de cela, nous avons besoin de toi Seigneur. Au nom de Jésus, amen. On va lire. Alors, c'est ça qui est bien avec le modernisme, c'est que vous pouvez lire avec moi là-bas, la version là. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et le réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dans Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Les hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, de nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair et par les dérèglements ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Waouh! Ça c'est dur, hein? C'est de l'attaque au béton là, hein? C'est dur. J'aimerais ce matin aborder ce texte, peut-être faire une lecture qui allège les mots un peu durs qui peuvent être complètement hors contexte, mais que nous pouvons mettre dans leur contexte pour comprendre un peu, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le souci de l'apôtre Pierre lorsqu'il aborde ce chapitre 2? Le sujet qui est au cœur de sa lettre dans ce chapitre 2, et c'est aussi le sujet qui est au cœur même de la deuxième épître, de sa deuxième lettre qu'il a écrite. C'est quoi? C'est les ravages que font les faux docteurs. À la fois leurs ravages, mais aussi les caractéristiques, ce qui caractérise les faux docteurs. Ça, c'est le souci que Pierre a. Au chapitre 1, nous avions vu qu'il avait commencé par prévenir le peuple et préparer comme ça les chrétiens en donnant la base même de la foi, à savoir attachement à Dieu. Et maintenant, il dit, voilà, vous savez maintenant ce qui est vrai, vous savez reconnaître le vrai, maintenant je vais vous montrer le faux qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe principalement dans la communauté chrétienne, c'est qui se met de plus en plus, qui commence à rentrer dans la communauté, c'est-à-dire les faux docteurs. Ce texte donc met en garde contre l'enseignement et l'attitude des faux docteurs. Et Pierre, il commence au verset 1 en disant, « De même que dans l'Ancien Testament, il y a eu des faux prophètes, de même maintenant, il s'est glissé aussi des faux enseignants. » Il ne met pas, la comparaison, ça ne veut pas dire faux docteur égale faux prophète. Hein. Ce n'est pas ce qu'il dit. Hein. Il dit simplement que de la même façon qu'il y avait ces faux prophètes dans l'Ancien Testament, de même aujourd'hui, il y a donc des faux docteurs, des faux enseignants, des gens qui enseignent des choses qui ne sont pas justes. Est-ce que vous croyez que ce phénomène existe aujourd'hui? Pensez-vous que le phénomène des faux enseignants existe aujourd'hui? Bien sûr. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une petite histoire. Une vraie, cette fois. Enfin, ça vient pas de ma tête, mais c'est une vraie histoire. J'étais chez moi à la maison il y a de ça un mois peut-être. J'ai reçu un coup de fil de l'île de la Réunion. Je vois le téléphone qui sonne, je vois l'île de la Réunion. Je dis, mais je connais personne par là, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, c'était une dame, elle se présente, et elle me dit, écoutez, monsieur le pasteur, je voudrais savoir, avoir des informations sur un jeune homme qui habite à Otigny. J'ai oublié le prénom, je vous le donnerai parce que c'est important de savoir reconnaître ce gars-là. Il dit, je voudrais avoir des informations sur un jeune homme qui habite à Otigny et qui prétend servir le Seigneur dans une église qui existe à Otigny. Et donc, la femme a tapé « Église à Otigny », boum, notre église. Et ce jeune homme dit qu'il prie dans l'église évangélique primitive biblique. Alors, j'ai dit à la dame, écoute, c'est loin d'être l'appellation de notre église. Hein. Nous sommes église protestante évangélique de Belgique, mais on n'est pas église évangélique primitive biblique. Et d'ailleurs, vous tous, avec un peu de réflexe, si quelqu'un commence à parler d'église primitive, vous fermez un œil, vous ouvrez un œil, vous dites primitive égale retour à l'Ancien Testament égale pratique bizarre. Donc, on comprend tout de suite que ce sont des églises très carrées, inadaptées par rapport à notre période d'aujourd'hui. Et toujours est-il que ce jeune homme prétend donc être sous l'encadrement d'un pasteur qui l'aide à grandir. Il prêche dans cette église, il officie. Donc cette dame, elle est presque convaincue que c'était moi. Et que le jeune homme, c'était, un jeune que je connais de notre église. Ce garçon, en fait, le problème, c'est qu'il avait réussi à séduire sa nièce, qui habite en France. Et avec ses enseignements très radicaux, il lui a aussi promis le mariage. Et donc la fille a tête tournée. Elle veut aller s'installer avec lui. Mais alors lui, il est pur, mais vraiment pur de chez les purs, et même un peu vegan comme ça. Enfin, tout ça, il trouve dans la Bible. Donc il est très vegan, il est pur, il y a tellement des restrictions, tellement des trucs qu'il a trouvé dans la Bible que lui il fait pas, il regarde pas les films, il boit pas du café, Et donc, ce jeune homme a été invité par les parents de la jeune fille, donc qui est en France, donc la nièce de la dame qui m'appelle. Et donc, ils ont été à l'église avec, et le pasteur de cette église-là a dit, mais jeune homme, je ne reconnais rien en toi de chrétien. Tu es vraiment chrétien, tu dis. Parce que c'était des positions plutôt sectaires, des a priori, comme on peut parfois en avoir. Donc, oui, effectivement, il y a encore aujourd'hui des faux docteurs. Il y a encore aujourd'hui des gens qui font office de prédicateurs, d'enseignants, mais qui n'enseignent pas la vérité. Alors, première chose, quelles sont les caractéristiques propres à un faux enseignant d'après ce texte? Alors, il y a quelques caractéristiques qui ressortent d'un faux enseignant. Un, au verset 3, la cupidité. Alors, la cupidité, c'est une des caractéristiques d'un faux enseignant qui cherche, en fait, c'est quoi la cupidité? C'est une manière, une recherche excessive de s'enrichir. Quelqu'un qui est cupide, il est obsédé par l'enrichissement. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'idée de gagner de l'argent ou d'avoir des richesses. Attention, c'est pas seulement un cupide, c'est pas seulement quelqu'un qui veut avoir de l'argent, C'est quelqu'un qui veut avoir des biens. Il fera tout pour pouvoir accumuler des biens pour lui. Et un cupide, c'est en général quelqu'un qui est insatiable. Là où tu cherches, toi, à accumuler des choses dont tu as besoin, un cupide, il ne se lasse pas. Il va avoir une voiture, ça lui suffit pas. Il faut encore une voiture de sa femme, et puis une voiture de son fils, et puis une voiture pour la sortie, une voiture pour les vacances, une voiture pour le week-end, une voiture, et il va toujours accumuler des choses, parce que voilà, c'est un insatiable. Il n'arrête pas. Il a toujours soif de posséder. Et Pierre va donner ici l'exemple, justement, en matière de cupidité, Pierre va donner l'exemple de Balaam. Balaam qui était un exemple d'un homme qui a voulu posséder, et à cause de l'envie de posséder de l'argent, il s'est laissé prendre par les demandes du roi Balak, qui lui a dit, allez, va maudire Israël. On reviendra sur cette drôle d'histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Balaam? Quand même, on connaît assez, Je ne vais pas la raconter, Deuxième caractéristique, verset 15, c'est l'immoralité. Ils sont pleins... Ah non, tu descends, oui. Pardon, à partir du verset 14, il dit ça. Donc, l'immoralité... Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont des enfants de mal, après avoir quitté le chemin de Balaam, etc. Donc, il y a une certaine notion d'immoralité, plein d'adultère, insatiable pour les péchés. On pourrait dire, mais purée, est-ce qu'on peut voir ça chez un faux enseignant? Est-ce qu'on peut vraiment voir tout ça? Est-ce qu'on peut voir la cupidité? On peut voir l'immoralité? Mais non, quand il prend la parole pour prêcher, on ne le voit pas. Mais on peut le voir à travers sa vie, à travers les témoignages de sa vie. C'est pour ça que c'est très intéressant. Lorsque vous voyez un prédicateur qui vous parle, qui vous touche, peut-être c'est bien aussi d'aller s'informer un peu. Qui est ce type-là? Vous serez parfois surpris qu'il est interdit en Australie, qu'il est interdit à tel endroit, qu'il a des problèmes là-bas, qu'il a des problèmes là-bas. Ah, mais en Belgique, impeccable, parce qu'il n'est pas connu. L'immoralité. Et ici, ils utilisent quatre termes pour cela. La volupté, c'est-à-dire la recherche de la satisfaction de plaisir. Donc ici, c'est insatiable de péché. La tromperie et l'adultère. C'est-à-dire cette capacité à vivre entre les deux, à tromper dans le sens de trahir Dieu. Ils peuvent aimer Dieu et autre chose et vivre dans les deux choses. On pourrait aussi étendre la notion en disant que c'est aussi aimer, enfin tromper, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est l'immoralité, l'adultère au sens de prendre des femmes d'autrui, mais c'est beaucoup plus l'idée d'être double avec Dieu, de pouvoir trahir Dieu. Ils ont donc un comportement comme celui des animaux qui agissent d'instinct. Un animal, quand il a faim, il regarde à rien d'autre. Il va manger, il veut sa bouffe. C'est tout. Il ne va pas réfléchir. Et quand on compare les gens à des animaux, on veut dire simplement qu'il y a une absence de la raison qui est derrière. Il y a donc un comportement charnel, un comportement dicté par la chair. Une autre caractéristique, donc, la cupidité, l'immoralité, mais aussi l'orgueil. L'orgueil habite les faux enseignants. Ils n'aiment pas qu'on les corrige. Ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont dans l'erreur. Ils n'aiment pas accepter d'autres enseignements que ceux qu'eux-mêmes ont inventés. Et nous pouvons nous rendre aussi compte de cela aussi. Une dernière aussi que j'ai voulu relever, c'est la vanité. Le fait qu'ils parlent avec un discours qui est très beau, mais qui est vide. C'est-à-dire que les gens qui suivent un faux docteur vont être séduits par la beauté de son discours, mais avec le temps, il n'y a rien qui les fait grandir. C'est du vide. Ça tourne en rond. En fait, c'est un discours exercé pour que eux puissent tirer le maximum de bénéfices possibles sur les gens. Un exemple. On peut avoir un discours sur la théologie de la prospérité, mais organisé autour du bénéfice que ça va rapporter aux faux enseignants ou aux faux pasteurs. On l'a vu, il va vous dire, les dîmes et les offrandes, vous devez les donner. Et donc il y a des prédications marteau qui vous disent, amenez vos dîmes, amenez vos offrandes, et c'est obligatoire. Mais, dit-il, les dîmes, c'est pour moi. Les offrandes, c'est pour l'Église. Alors, si tu fais un calcul léger, tu vas comprendre qu'en fait, la dîme et les offrandes, si le pasteur se paye avec la dîme, ça veut dire qu'il reçoit beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'en fait, il prend pratiquement tout, parce que les dîmes, c'est nécessairement plus important en volume que les offrandes. Mais voilà, mais il va prêcher et il va vouloir te raconter que, voilà, puisque les sacrificateurs ont droit à manger de ce que l'on reçoit dans la maison du Seigneur, donc il a le droit de recevoir lui aussi et de prendre la dîme, etc., etc. Et on va dire, oui, mais c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Jusqu'au moment où on va dire, attends. Malachie dit, amener à la maison du trésor. Mais c'est quoi la maison du trésor? Mais la maison du trésor, ça appartient à qui? C'est administré pour qui? Ah, c'est pour Dieu. Oh. Donc en fait, la part qui revient à Dieu, ce n'est pas dans ça que lui doit prendre. C'est pas de cette façon-là. Voyez? Et alors on peut commencer à comprendre un peu la super la supercherie. Qu'est-ce qui peut permettre, qu'est-ce qui peut permettre que on puisse connaître un faux enseignant? C'est le temps. On reconnaît un fruit à son, On a l'arbre à son fruit. C'est le temps qui révèle qui sont les gens, qui sont les faux enseignants. C'est le temps qui va le révéler. Parce que si quelqu'un a des mauvaises habitudes, ses habitudes finiront par se manifester et paraître clairement. Comment éviter le piège, comment éviter de tomber dans les pièges des faux docteurs? Deux choses que je propose. L'ancrage dans la Bible, dans la parole de Dieu. Prendre la peine de lire soi-même la Bible. Prendre la peine de pouvoir revenir sur le texte quand quelqu'un te dit, ce texte dit ça, tu reviens dessus, tu regardes, ah oui c'est vrai ça dit ça, Ce texte dit ça, tu reviens chez toi, tu dis, mais il a dit ça, mais où ça se trouve? Je vois pas ça. L'ancrage dans la parole de Dieu est important pour pouvoir déjouer les manœuvres, les pièges des faux enseignants. Deuxième chose, il faut apprendre à s'attacher à des enseignants qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une culture caractérisée par le culte de la personnalité. C'est moi qui choisis à qui je vais me fier. Allez, je choisis Matthieu, parce que c'est un excellent prédicateur. Il prêche sur l'évangile de la prospérité. Et moi, j'aime ça. C'est des trucs que ça me fait du bien. Donc, je m'attache à Matthieu. Et puis, mais Matthieu, il est bien, hein, mais il ne parle quand même pas beaucoup de l'amour. Donc, je prends aussi Benjamin. Donc, j'ai Matthieu de temps en temps, si j'ai envie d'entendre des choses qui m'arrangent là-bas. Et puis, je vais chez Benjamin pour entendre d'autres choses qui m'arrangent. Et puis, je choisis. Nous sommes comme ça aujourd'hui. Mais c'est une mauvaise manière de fonctionner. Notre maître, notre référence doit être d'abord Jésus-Christ et pas les hommes. Maintenant, nous pouvons nous fier aux hommes qui prêchent la parole de Dieu comme le Seigneur Jésus le fait. Et ça, on peut le savoir si on connaît Jésus correctement. Deux ingrédients qui peuvent permettre que nous puissions déjouer les pièges des faux docteurs, être ancrés dans la parole de Dieu véritablement et être attachés à l'enseignement biblique, à la parole de Dieu, mais et reconnaître des maîtres qui sont eux-mêmes attachés à cette parole véritable. Alors ça, c'était pour un peu les caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise un peu ces faux enseignants? C'est des choses qui ne sont peut-être pas, comme je l'ai dit, en apparence, on le voit pas comme ça. Mais c'est des choses qui peuvent nous interpeller à travers ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc. Quels sont les dégâts? Ça, c'est le deuxième point. Quels sont les dégâts causés par des faux docteurs? Verset 1, ils introduisent des conceptions hérétiques et sectaires. Tout doucement. Furtivement. Ici, le texte dit sournoisement. Jamais un faux docteur va vous dire, vous savez, je voudrais que on parle de l'onction d'huile dans l'église. Ça, je donne des exemples concrets parce que c'est des exemples que j'ai déjà entendus et peut-être même approchés. Ah, l'onction d'huile doit se faire avec de l'huile d'olive vierge 100% et au cours de la cérémonie, je te verse sur la tête et puis alors on commence à vendre ces huiles là, hein, 50 € l'huile, on prend une petite fiole comme ça, 50 €. Et puis le pasteur fait toute une cérémonie extraordinaire où il crie sur ces histoires-là pour qu'ils reçoivent la bénédiction et la puissance de l'onction, etc. Et alors, voilà, acheter. Et puis, alors, les 50 €, ça va où? Dans la poche du pasteur. Et puis, voilà, enfin, bref. Donc, mais il y a donc une introduction systématique des conceptions hérétiques, des conceptions sectaires. L'hérésie consiste ici, dans le contexte de Pierre ici, principalement à enseigner deux choses qui étaient totalement fausses. D'un côté, que une fois qu'on est sauvé, franchement, on peut vivre comme on veut. Je suis sauvé, c'est fini, mon péché est enlevé, je peux vivre comme je veux. Je peux faire ce que je veux. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Voyez? Mais ils introduisent. Et c'est normal, c'est en rapport avec leur propre nature. Je vous ai décrit que c'est des gens cupides, des gens immoraux, etc. Donc, ils introduisent un peu cette tendance-là. Première chose, donc, c'est vraiment une licence morale par rapport au salut. Ça dit qu'une fois que je suis sauvé, eh bien, je peux vivre comme je veux. Et d'autre part, il prônait aussi un peu dans l'influence peut-être du système grec, mais aussi dans l'obsession du salut parfait, il prônait aussi la délivrance des esprits. Mais cette histoire de délivrance, elle nous tient jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Beaucoup de faux prophètes aujourd'hui vous balancent que vous êtes possédé par des démons, que vous avez des problèmes de ceci, vous avez des problèmes de cela, qu'on peut vous délivrer. Il y a de plus en plus, et il y a à boire et à manger. Je ne nie pas qu'on peut avoir besoin d'être délivré. Je ne nie pas qu'on peut avoir besoin d'être guéri. C'est des réalités. Moi-même, j'ai été guéri, je dois le dire, j'ai été guéri de la colère. J'avais une colère qui dépassait quand même le niveau normal. Donc, j'ai été guéri de ça et j'en suis reconnaissant à Dieu. J'ai été guéri de l'asthme. Vous savez, j'étais asthmatique. Je suis né, quand j'étais petit, j'avais de l'asthme. Mais c'était une sale maladie parce que j'étais allergique à tout, à la poussière. Il y avait des vêtements que je pouvais pas porter parce que dès que je portais, j'avais des eczémas partout. Je toussais comme un malade, j'étouffais. Et parfois, on devait me mettre des piqûres. Mais à un moment, quand je me suis converti, j'ai cru à la puissance de la guérison. J'ai dit, Seigneur, tu peux me guérir. Et monsieur m'a guéri. J'avais 17 ans à l'époque. J'en ai 54. Je n'ai plus jamais fait de crise d'asthme. Plus jamais. Je connais même pas c'est quoi. La seule fois que j'ai attrapé une trachéite, j'ai toussé comme un malade. J'ai dit, Seigneur, peut-être c'est l'asthme qui a repris. Le médecin m'a dit, non, rassurez-vous, vous n'êtes pas asthmatique. Je crois à la guérison. Mais je pense qu'ici, le texte invoque plutôt le fait que on rentre dans une espèce de faux enseignement sur la délivrance et sur la guérison. Et on met les gens dans une espèce d'obsession maladive. Au Congo, nous avons malheureusement un groupe chrétien, enfin, on pourrait les appeler encore chrétiens avec beaucoup de tristesse, mais enfin bon, voilà. C'est un groupe qui a inventé le système de la délivrance au point de commencer à discerner qu'il y a des esprits. Alors, tu as des esprits démoniaques qui sont esprits, mais tu as des esprits démoniaques qui sont humains. Alors, attention, c'est pas fini. Dans les esprits démoniaques humains, tu as des gens que vous connaissez, peut-être vos parents, et ils agissent spirituellement sur vous pour vous atteindre. Et puis, c'est pas tout. Alors, il y a des esprits de mort, des esprits de ceci, de cela. Et ces gens vivent dans une espèce de paranoïa. Quand vous allez chez eux, ils se méfient de vous, ils ont peur que vous puissiez. Est-ce que c'est encore la liberté? Est-ce encore la joie de vivre? Ou bien on rentre dans une forme d'esclavage où on doit se méfier de tout, on doit avoir peur de tout, on doit avoir plusieurs séries de choses à faire. Voilà. Voyez, c'est des introductions de ces faux enseignements qui sont en jeu ici pour ce qui concerne l'attitude de Pierre. Il met en garde contre cela. Vous savez, mes amis, c'est juste une parenthèse que je mets. Le vrai christianisme, il est simple. Vous avez entendu? Le vrai christianisme, il est simple. Quand je commence à dire un bon chrétien doit se lever à 4h du matin pour prier et que c'est une obligation, J'ai un problème. Si je commence à dire que telle chose doit se faire de telle manière, à moins que ça soit écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais si c'est une déduction de moi, il y a un problème. Nous devons simplement vivre dans la simplicité. La parole de Dieu nous donne des pistes simples. La parole de Dieu nous demande simplement de lire notre Bible, mais pas de la lire légèrement, mais de la lire d'une manière sérieuse. Ne pas être un auditeur oublieux, mais quelqu'un de très concentré, qui lit vraiment les choses et qui retient bien les choses. Mais la parole de Dieu nous suffit. Nous avons la prière, une prière de plus en plus intime avec le Seigneur. Et lorsqu'on apprend à prier, à se confier au Seigneur, à avoir cette foi simple, où je compte sur Dieu, j'ai pas besoin de tous les tralala. J'ai besoin de servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas nécessairement un faire-valoir. C'est juste ma manière de manifester ma reconnaissance. C'est mon retour de ce que le Seigneur m'a fait. Et lorsque j'aborde le christianisme dans toute la simplicité, j'ai beaucoup de chance d'éviter de tomber dans les sectes. Mais lorsque je commence à ajouter, la parole de Dieu a dit ça, mais il faut aussi ajouter ça. La parole de Dieu a dit ceci, mais il y a encore cela. Là, il y a un souci, il y a un problème. Juste pour terminer, vous savez, un jour, je cherchais à l'époque, j'étais friand, je cherchais à l'époque les expériences du Saint-Esprit, et on est allé voir un prédicateur, j'étais encore jeune, j'avais 16 ans. Et le gars nous a parlé pendant 45 minutes de l'enfer. Je ne sais pas comment il faisait, mais il mettait le lien entre l'enfer et le fait d'avoir le Saint-Esprit. Et puis, à la fin, il nous a demandé à mon copain et moi s'il veut maintenant nous imposer les mains pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Vous savez quoi? On s'est levé, on a couru. Parce qu'on s'est dit, non. On était au comble de la bizarrerie. Nous pouvons discerner ce qui est bizarre, mais c'est à nous d'être ancrés dans la parole de Dieu pour le découvrir. Donc, premier dégât, c'est l'introduction des sectes et des hérésies. Deuxième dégât, c'est le fait qu'ils entraînent dans la séduction des gens vulnérables, des chrétiens plus faibles, qui se battent avec les vérités. Vous savez, on n'est pas tous aussi péremptoires, aussi affirmatifs dans notre foi. Il y a des gens qui ont une foi hésitante, qui se posent des questions, qui ne sont pas à 100% sûrs de tout. Mais alors, le dégât de ces faux docteurs, c'est que eux vont repérer ces gens-là dans l'église. Ils viennent dans l'église, ils regardent comme ça, et ils commencent à regarder, et ils se font amis de ces gens-là. Pourquoi? Pour les attraper. C'est pour ça que moi, dans l'église, quand quelqu'un vient et qu'il a l'air de très bien connaître la parole de Dieu, je regarde toujours où est-ce qu'il va. Il va voir Matthieu, ça va, il n'y a pas de problème, je ne m'inquiète pas. Jerry, oh ça va, il n'y a pas de problème. S'il va voir d'autres chez qui, je regarde un peu de quoi il parle. Parce que voilà, on sait très bien qu'il peut apporter, il peut prendre des gens plus vulnérables et les emmener à être leurs victimes. Et c'est une source de... Ça peut être une source de division parce que il va introduire des fausses doctrines à travers ces personnes-là qui vont de plus en plus élever la voix en disant « Mais pourquoi on ne fait pas ceci? Et pourquoi on ne fait pas cela? » Et il faut... Et puis opposition, et puis bagarre, et puis division dans l'Église. Ils aiment, les faux docteurs, aiment répandre leur enseignement même au détriment de la ligne fixée dans l'Église. On en a eu un ici, qui est venu, il voulait des tas de trucs. On lui a dit, notre église, nous, on ne parle pas de l'eschatologie, et encore moins de toute la discussion. On ne lit pas Daniel sous l'œil eschatologique pour dire, ah oui, les événements de la fin des temps, il y a ça. On fait pas ça ici, parce qu'on respecte les sensibilités des gens. On a ici des prémillénaristes, je vais expliquer tout ça. Et puis le gars dit, mais non, ça va pas, ça. Il faut prêcher les gens, les amis, ça, tout ça, c'est des blagues. Amis, c'est des blagues, tout ça. Moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Alors, je lui dis, va le dire ailleurs, mais pas ici, parce que c'est plus simple. Donc, ils viennent, mais ils veulent perturber la ligne fixée dans la vie de l'Église. Un vrai enseignant, un bon enseignant, va respecter l'ordre qu'il trouve dans une Église. Et va se tenir dans cette dynamique-là. S'il y a du changement, il va l'aborder tout doucement, mais avec les responsables, en discutant gentiment, jusqu'à ce que les gens disent, ah oui, mais tiens, peut-être que tu as raison. Troisième chose, C'est peut-être que c'est pas encore arrivé dans l'Église, et peut-être que c'est moins présent en Europe, quoique je ne sais pas. Mais les faux docteurs exploitent matériellement et spirituellement les chrétiens. Ils créent des situations inextricables. Donc, ils vont demander des choses, ils vont faire comprendre qu'ils ont besoin des choses, et ils vont mettre les gens dans une espèce de dépendance par rapport à eux pour les servir, pour leur rendre service, pour faire des tas de trucs, etc., etc. Et puis, ça va devenir de plus en plus une situation compliquée où ils vont avoir des comportements avec certains, un type de comportement, avec d'autres, un autre type de comportement, parce que ils ont créé du clientélisme, des relations un peu, et ça crée des situations inextricables l'homme de Dieu ne sait pas être en rapport honnête avec tout le monde. Et donc, en ce moment-là, ça va affaiblir la foi. Donc, trois choses. Les hérésies et les sectes, la séduction qui va entraîner la chute des personnes surtout vulnérables, et puis l'exploitation des matériels et spirituels des chrétiens. C'est donc des gros dégâts qui sont susceptibles de se faire avec des faux enseignants. Il faut donc savoir les reconnaître pour éviter les pièges. Et ce qui est bien, et je termine avec ça dans le texte, c'est que le petit jeu des faux docteurs est un jeu qui un jour s'arrête. Il ne s'arrête pas seulement parce que nous le reconnaissons. Il s'arrête surtout parce que Dieu va l'arrêter. C'est Dieu qui veille sur son Église. Dieu ne laisse jamais prospérer les faux docteurs. Voici ce que Dieu réserve aux faux docteurs. Verset 2. Ah, non, verset 1 ici. Donc, René, non, attireront plusieurs. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas les mêmes textes que toi? Ah, mais voilà. C'est la fin du verset 1. Donc, voyez, il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a attachés, attireront sur eux, quoi? Une ruine soudaine. Vous voyez? Il y a donc une perdition. Ils ne pourront pas continuer comme cela. À un moment donné, le Seigneur va les entraîner dans des dégâts, dans des échecs, et va mettre fin à leur activité. Deuxième chose, verset 3, on parle d'un jugement à leur endroit qui est déjà en route. C'est le verset 3, tu peux monter là? J'espère que c'est ça, parce que, ah oui, c'est ça, c'est juste. Donc, par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps quoi? La condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Il y a une condamnation, un jugement de Dieu qui est déjà en cours d'exécution. Et puis, la fin aussi est intéressante aussi. Toujours avec l'œuvre de Dieu au verset 20. Tu peux remonter le verset 20? En effet, après s'être retiré de souillure du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Ça, c'est peut-être la chose la plus dure. Donc, ces faux docteurs finissent par subir un sort dur que le Seigneur leur réserve et qui va les ruiner complètement et donc régler leur compte. Donc, même si c'est vrai, notre tâche est d'être averti qu'il y a le danger des faux docteurs, mais nous devons savoir aussi que le Seigneur s'occupe des faux docteurs. Il mettra fin à leur activité et préservera son Église. Mais il est important que nous sachions que c'est des réalités. Aujourd'hui, nous pouvons vivre cela dans l'Église. Nous pouvons avoir des gens qui viennent. Ne soyons pas toujours dans une profonde admiration des personnes qui viennent avec beaucoup de grades et de titres. Je suis docteur en ceci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Soyons simples. Accueillons-les simplement, écoutons-les. Et quand ils disent des choses, faisons comme on a toujours fait. Allons lire dans la Bible Est-ce que ce qu'il dit là, hein, c'est conforme? Ok, d'abord, c'est bon. Et si on commence à avoir des petits doutes, des petites questions, on va un peu vérifier. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de secrets sur les gens. Si vous tapez Gaston Boula sur Internet, je suis déçu de constater qu'il y a mon nom à certains endroits, de sorte qu'il y a un gars qui m'a téléphoné en me disant « Je sais que vous êtes pasteur, je sais que vous êtes enseignant, vous êtes... et comment vous savez tout ça ?» Mais j'ai vu ça sur Internet. J'ai plus rédit. On n'a même plus de vie. Hein. Donc voilà. On peut trouver, si on cherche, on peut taper et on peut regarder et découvrir des surprises sur les personnes qui peuvent s'entêter de nous tromper. Que le Seigneur nous aide. Bonne lecture de ce livre, mais en même temps aussi, nous sommes éveillés à faire aussi attention aux faux enseignements qui peuvent exister véritablement. Amen.